Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Ce sera notre 196e émission et notre 145e chronique. Nous allons la consacrer au conflit entre les villes et les bourgs de la Basse Marche. Pour les textes, j'ai utilisé les ouvrages et les auteurs suivants. Pierre Robert, un magistrat du Dorat de Louis Perroas. La vie quotidienne dans la Basse Marche au XVIIe siècle, également de Louis Perroas. La monographie de la commune de Thiat de Ribière de Ravela. Le Dorat, capitale de la Basse Marche, de l'abbé Rougerie. Et la monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles de Roger Drouot.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Nous avons déjà traité dans nos chroniques des petites et grandes histoires de la Basse Marche des oppositions, voire des guerres, à l'intérieur des villes de la Basse Marche, entre la ville et le château à Magnac-Laval ou au Dorat, par exemple. On sait que pendant la guerre de Cent Ans, lors du passage du Prince Noir au Dorat, le château fut pris d'assaut, mais préservé. Les habitants du château, par contre, laissèrent ceux de la cité qui s'étaient réfugiés dans l'église se faire massacrer. Plus tard, à la faveur des guerres de religion, en mai 1589, les habitants de la cité du Dorat raseront en quelques jours le château qui avait été occupé par les ligueurs du vicomte de la Guerche. Opposition également entre la cité fortifiée et les faubourgs de Bellac. À Bellac, lors du siège de 1591, les habitants de l'enceinte fortifiée tenaient pour le roi. Par contre, les habitants des faubourgs soutenaient les assiégeurs, les ligueurs de la Guerche. Sans parler des oppositions entre les habitants des villes ou des bourgs et ceux de la campagne, entre les villots et les paysans, nous allons voir aujourd'hui qu'il a existé de grandes oppositions qui donnèrent même lieu à des émeutes entre Bellac et le Dorat, entre Thiat et Darnac, entre Bussière-Poitevine et Mézières-sur-Issoire, entre Le Dorat et Magnac-Laval, entre Arnac-la-Poste et Saint-Sulpice-les-Feuilles. Ce sont souvent des décisions administratives, rattachement à tel ou tel canton, implantation du siège de la sénéchaussée ou du chef-lieu de canton, refus du curé d'aller servir la messe dans telle ou telle paroisse, qui avivèrent les jalousies et créèrent des tensions et plus parfois des affrontements. L'opposition la plus célèbre et la plus tenace est celle qui vit s'affronter Bellac et le Dorat. Nous n'allons pas entrer dans les arguments des uns et des autres, mais force est de constater qu'originairement, le territoire de Bellac ne faisait pas partie de la Basse Marche. Il fut violemment réuni au commencement du Xe siècle par Boson le Vieux, comte de la Marche, qui y bâtit le château de Bellac pour se couvrir et conserver sa conquête. C'est en 1572 que le roi de France, Charles IX, promulgua, je cite, un esdit établissant et créant les sièges royaux du Dorat et de Bellac en la sénéchaussée de Basse Marche. Une sénéchaussée, c'est à la fois une entité territoriale, une circonscription administrative, financière et surtout judiciaire. Et c'est aussi la fonction d'officier, de lieutenant général qui en a la charge. Mais en fait, cet édit ne met pas Bellac et le Dorat à égalité, puisque le siège principal de la sénéchaussée est au Dorat et que le lieutenant général ou son lieutenant particulier pourra se rendre à Bellac pour les plaidoiries. Et de ce fait, Bellac devient dans la réalité un siège secondaire avec seulement un lieutenant particulier alors que le lieutenant général est au Dorat. Et donc, le Dorat et bien ainsi la capitale judiciaire de la Basse-Marche. Le siège principal du Dorat avait pouvoir sur 30 justices ou châtellenies, ce qui recouvrait 3 abbayes, 15 prieurés et 65 cures, alors que le siège secondaire de Bellac ne régnait que sur un seul prieuré et seulement 19 cures. Alors Bellac, qui est un bourg plus important, va continuellement contester cette décision, d'autant plus que l'activité d'un siège principal de sénéchaussée procure une intense activité, ne serait-ce que par les nombreux emplois de justice. Songez un peu, au Dorat, on compte 22 officiers de justice, un lieutenant général, un lieutenant criminel, un lieutenant particulier, un assesseur, 3 conseillers, un procureur, avocat du roi, un receveur des consignations, un commissaire aux saisies, 11 avocats procureurs, un greffier, un huissier, audiencier. Les procès seront permanents entre les deux cités de Bellac et du Dorat, mais bien plus encore, les insultes, les quolibets qui fuseront jusqu'à la réforme de 1790.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
À propos de cette opposition entre Bellac et le Dorat, Louis Perroys rapporte les propos de Pierre Robert, le lieutenant général de la sénéchaussée de Basse-Marche au siège du Dorat. Il précise qu'existait une vraie rivalité de pouvoir entre Bellac et le Dorat. Question: quelle est la ville capitale de la Basse-Marche? Pierre Robert répond par un long discours historique étoffé de nombreuses citations sur les relations souvent conflictuelles des juridictions de la Basse-Marche, sur les qualités respectives des deux cités, pour conclure, bien évidemment, que malgré 3 objections importantes, c'est au Dorat que revient le rôle de chef-lieu. Et d'énumérer avec une satisfaction jalouse les prérogatives du siège royal et principal du Dorat par rapport à celui de Bellac. Pierre Robert qualifie les Dorachons de bons ménagers, grands travailleurs, jamais ne disant mal les uns des autres, respectueux envers leurs magistrats et officiers. Par contre, ceux de la ville de Bellac, voyant leurs compatriotes du Dorat mourir de toutes parts par la furie de ce mal contagieux, c'est la peste, au lieu de prier Dieu pour eux ainsi qu'en semblable occasion, avouent fait de ceux du Dorat en l'an 1601 que la peste se mit furieusement à Bellac, ce que même les païens et les plus barbares de l'univers en semblable sujet ont pratiqué envers leur Dieu. Firent des chansons contre les habitants du Dorat, de leurs maux, infortunes et misères. Mais peu après, ceux de Bellac, en ayant eu leur part, dont plusieurs moururent, non pas en si grand nombre qu'en la ville du Dorat. Ce mal passé, plusieurs querelles, dissensions et débats s'émurent entre ces deux villes par chansons et libelles diffamatoires. Certes, Pierre Robert n'est pas dupe sur les qualités des habitants du Dorat, mais il sait souvent les défendre, alors que les habitants de Bellac sont méchants, voire diaboliques. Voici ce qu'il écrit à propos des habitants de Bellac. « Un homme de Bellac mangera plus de chair en un repas que 3 ou 4 du Dorat. Ils sont fort téméraires, brouillons et chicaneurs, peu curieux des bonnes lettres, fort envieux les uns des autres, trompeurs et adonnés aux tromperies, fort grossiers en leur façon de faire, peu civils et courtois. Il ira jusqu'à déclarer que l'air est plus sain au Dorat qu'à Bellac, qui empeste des odeurs d'étanerie et des effluves nauséabondes du vin coup. »
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Voici un autre témoignage cité par Pierre Robert, le lieutenant général de la Sénéchaussée de Basse-Marche, au siège du Dora en 1614. De grande ancienneté, dit-il, il y a eu une grande antipathie entre le Dora et Bellac. Les habitants de l'une et l'autre ville se sont longtemps fait la guerre entre eux, soit par procès, querelles particulières, pasquelles, libelles diffamatoires ou autres actes. Environ l'an 1580, ville du Dora et de Bellac, deux fameux poètes s'en donnèrent l'un et l'autre d'estoc et de taille, à savoir Pierre Maillard, médecin et poète du Dora, et le dénommé Baroque, avocat et poète de Bellac. Il était estimé ladre et lépreux. Maillard du Dora fit jouer une tragédie au Dora, où il fit représenter l'embrasement de Sodome et Gomorre, avec cinq villes, entre lesquelles était la ville de Bellac. Il fit représenter le poète de Bellac Baroque, avec la face toute pleine de grosses ladreries, et il y avait quantité d'autres habitants de Bellac accommodés de cette sorte, tous couverts de lèpre, et disant « Nous sommes les ladres de Bellac, nous menons et conduisons le pauvre Baroque de Bellac infecté comme nous de lèpre et de ladrerie. » Baroque de Bellac, pour sa part, fit présenter quelque temps après une autre tragédie où estoient quantité de personnes du Dora qui s'entre-empoisonnaient et se tuaient les uns les autres en disant « Voici les empoisonneurs du Dora. » Puis il fit représenter le poète du Dora Maillard, sortant des enfers avec ses enfants en petit diable. Et les deux poètes se traitèrent de larron, boutefeu, voleur, guetteur de chemin, ivrogne, gourmand, incestueux, traître, faux monnayeur, meurtrier, etc., etc. C'est dire le niveau des relations qui existaient entre les deux villes de Bellac et du Dora. On nous indique que de tous côtés du pays de la Basse-Marche, on s'assemblait nombreux dans les villes du Dora et de Bellac pour aller voir ces tragédies. Un autre conflit se développa entre Thiat et Darnac. En effet, à la Révolution, les Thiachons, les habitants de Thiat donc, embrassèrent avec enthousiasme les idées nouvelles. Ils s'enhardirent même. Thiat, quant à la population ayant une importance supérieure au bourg de Darnac, ils osèrent réclamer, lors de la division départementale de la France, l'érection de leur village en chef-lieu de la commune ou de celle que l'on pourrait former avec les villages environnants. Mais leur voix était faible. Paris était à son lieu. Darnac, ancienne châtellenie avec notaire royal et lieu plus central, eut la préférence. Thiat fut donc simplement englobé dans la commune dont le chef-lieu était Darnac. Il était distant de près de 6 km, séparé par une rivière difficile à passer à gué pendant les mois d'hiver et desservi par un chemin épouvantable. Les habitants de Darnac se réjouirent de l'échec éprouvé et ridiculisèrent fréquemment la population de Thiat déjà indisposée. Ils manifestèrent ouvertement contre elle en privant cette partie de la commune des avantages dont elle aurait dû avoir sa part. Cette conduite n'était point faite pour rétablir la paix entre le gros village de Thiat et le petit chef-lieu de Darnac. Et la lutte se fit sur le terrain des élections communales, mais longtemps en vain pour les habitants de la section de Thiat, la population de leur sphère d'influence active étant moins dense que celle de Darnac. Lorsque vers 1840, c'est-à-dire alors que les esprits contenus pendant 35 ans par le régime impérial et monarchique eurent perdu de leur tiédeur religieuse imprimée par l'époque révolutionnaire, les habitants de Thiat demandèrent au curé de Darnac de venir célébrer la messe chez eux tous les 15 jours afin de n'avoir pas à faire aussi fréquemment le trajet pénible du village au bourg et aussi probablement afin de ne point favoriser le commerce local de Darnac. Ce qui était jugé pénible à faire par toute une population ne le fut pas moins par un seul. Exerça-t-on sur le prêtre quelque pression pour l'empêcher d'accéder à cette demande ? On doit le croire. Les réclamants furent éconduits. Ils insistèrent à plusieurs reprises, mais toujours inutilement. Cet échec accrut le mécontentement des habitants de Tia et des villages environnants contre Darnac. Quelques limousinants ayant assisté en Poitou au culte des protestants émirent l'idée, vers la fin de l'année 1844, de faire appel à un ministre de ce culte, et cette idée fut aussitôt acceptée. Il est à noter que Tia deviendra chef-lieu de sa propre commune seulement en 1861 par un décret de Napoléon III.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
On se souvient également combien les habitants de Bussière-Bouedevine bataillèrent contre Bellac en octobre 1790. En effet, ils voulaient garder leur autonomie et s'opposèrent au rattachement de leur paroisse au district de Bellac. Voici quelques extraits de leur adresse. Ayant pris connaissance d'une délibération qui a été prise dans l'assemblée tenue au bourg de Bussière-Poitevine le 4 juillet 1790, par laquelle on fait option pour le district de Bellac au préjudice de celui d'Udora. Il déclare par ses présentes protester et réclamer contre cette délibération comme étant illégalement faite, eu égard à ce que la majeure partie des votants n'ont pas été libres dans leur suffrage et que, ne sachant point écrire lorsqu'ils se présentèrent pour faire leur scrutin, les scrutateurs qui étaient à la dévotion de messieurs de Bellac sollicitèrent les votants pour consentir à ce qu'on établisse sur les 10 scrutins que leur vœu était pour Bellac. Qu'en conséquence, ils déclarent tous par la présente vouloir demeurer irrévocablement unis au district d'Udora et retirer les suffrages qu'ils auraient été forcés de donner pour Bellac. Les susnommés décidèrent de porter plainte et réclamation à l'Assemblée nationale et au département et chargent l'un d'entre eux, un notable, Louis Dupont, de transmettre la présente demande au procureur général du département. Notons que cette pétition fut signée par 129 habitants de Bussière-Poitevine.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
En 1843, dans le canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, le bureau de l'enregistrement était à Arnac-la-Poste. Depuis des années, les habitants du chef-lieu, Saint-Sulpice-les-Feuilles, avaient conduit des démarches pour obtenir le transfert de ce bureau d'Arnac à Saint-Sulpice. Et le 13 juin 1843, ils obtiennent satisfaction. Mais cette décision va provoquer une véritable émeute. Roger Drouot nous en fait récit dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Les habitants d'Arnac, qui avaient mis tout en œuvre pour assurer la conservation de ce bureau de l'enregistrement, furent vivement affectés de cet insuccès. Et les têtes se montant jurèrent de le conserver par la force. Le 1er août, jour fixé pour le déménagement du bureau, des charrettes vinrent à 5h du matin pour enlever les registres. Déjà, on remarquait dans le bourg un mouvement inusité et quand les voitures se montrèrent, il se forma des groupes discutant avec animation sur le parti à prendre. Tout à coup, le tocsin sonne et la foule envahit la place. La brigade de gendarmerie qui s'était tenue cachée survient au trot et couvre les papiers administratifs. Il y eut un mouvement de stupeur bientôt passé et la foule, rendue furieuse par cette intervention, vocifère de plus belle, réunissant dans une même haine agents et gendarmes. À une sommation des gendarmes d'employer la force, une centaine d'individus, armés de faux et de fourches, excités par les vociférations d'une multitude surtout composée de femmes ivres de colère, se précipitent pour enlever les voitures qu'on a grand-peine à protéger. Le tocsin sonne à nouveau, la foule d'arnaques reçoit des renforts des villages voisins. On menace alors de mettre le feu aux voitures. Devant les menaces, la gendarmerie donna l'ordre de décharger les charrettes et l'émeute s'apaisa. Mais le surlendemain, le 3 août, dès le matin, les autorités ont fait appel à de nombreuses brigades de gendarmerie, dont celle de Boismandé, au procureur du roi et au juge d'instruction de Bellac. À l'arrivée de cette force armée, le tocsin sonne à nouveau et les gens du bourg, bientôt renforcés de ceux de la campagne, armés de faux, de fourches et de bâtons, se précipitent au bureau de l'enregistrement et en prennent possession en refusant l'accès aux agents et aux magistrats. Tous les pourparlers sont inutiles. Le juge d'instruction qui veut entrer dans l'église est menacé d'un coup de fusil. Et bientôt, une lutte corps à corps s'engage avec les gendarmes qui, finalement, ont le dessous et sont mis en fuite à coups de pied et à coups de poing. 20 gendarmes contre 400 individus affolés. Les habitants des communes voisines intéressés au maintien du bureau viennent grossir la foule menaçante. Mais tout à coup, on entend un bref commandement, un cliquetis de sabre, un piaffement de chevaux. C'est un escadron de chasseurs qui, au trot, charge la multitude ébahie de cette intervention soudaine et, malgré ses cris et ses huées, la rejette des abords du bureau. Les archives furent alors placées dans une charrette et immédiatement, sous la protection des gendarmes et des chasseurs, le convoi se mit en marche et arriva sans encombre à Saint-Sulpice-les-Feuilles. L'affaire était terminée, le bureau de l'enregistrement fut bien installé à Saint-Sulpice-les-Feuilles, mais le ressentiment des gens d'Arnac-la-Poste contre ceux de Saint-Sulpice s'amplifia et on peut se demander s'il ne subsiste pas encore aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai consacrée aux rivalités entre les villes et les bourgs de la Basse Marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Pierre Robert, Louis Perroisse, Ribière des Ravelas, l'Abbé Rougerie et de Roger Drouot. Pour les illustrations musicales, j'ai fait appel à Joseph Baudin de Boismortier, un compositeur français né en 1689 et mort en 1755, auteur de très nombreux morceaux pour flûte, violon, hautbois, etc. Il s'agit ici de pièces regroupées sous le titre « Divertissement de campagne ». Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.